Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, il est 8h passé de 2 minutes, nous sommes bien dans le Mac de l'Immo en ce vendredi 5 novembre et notre invité c'est Richard Sipin, Richard qui est avec nous, le directeur général de Barnes. On va faire son portrait pendant une heure, on va parler évidemment immobilier de prestige qui est en plein boom malgré la crise sanitaire. Et Richard, vous allez être soumis au feu roulant de questions de Fabienne Nissac. Ça va Fabienne?
Oui mais non, c'est une conversation très intime, on est entre nous.
Et on a commencé en musique, hein, Richard, avec un premier titre que vous nous avez proposé, puisque c'est vous qui êtes à la tête de la programmation musicale durant cette matinale. Stand By Me, ça vous évoque quoi ?
Ça m'évoque une chanson que j'ai chantée, puisque pendant une dizaine d'années, j'avais un petit groupe de musique amateur avec des copains, et j'adore la soul, et voilà, je suis très sensible à la musique de façon générale.
C'est terminé ? Plus de pousser, oui, plus voilà. Chansonnette.
Pour l'instant, c'est terminé, mais je suis toujours aussi sensible.
Il peut y avoir des petites surprises dans cette émission, quand même. Hein. On peut parler de pousser la chansonnette. Hein. En tout cas, on va faire une interview très soul, justement. On a envie de savoir qui se cache derrière ces magnifiques villas, résidences qui nous font rêver. Quelle est cette âme ? L'âme de Barnes, c'est notamment vous, avec Thibaut de Saint-Vincent. Alors, avant de venir à cette rencontre, quand vous vous êtes associés, une petite synthèse De votre parcours, maîtrise de gestion, formation à Dauphine, et puis vous entrez dans la publicité. Vous pouvez nous parler de cette expérience dans les médias, Richard Sipin ?
Oui, c'est vrai qu'après Dauphine, comme beaucoup de jeunes de 20 ans, on ne sait pas très bien quoi faire. Et du coup, on va vers la première société qui nous ouvre les bras et qui nous semble intéressante. Et en l'occurrence, je suis rentré dans un magazine qui s'appelait L'Expansion, qui était le magazine numéro 1 à l'époque, dans les années 80.
Belle référence.
Qui était présidé par Jean-Louis Servan-Schreiber et dirigé par Jean Boissonnat, qui était un grand économiste. Et on était très fiers de travailler dans cette société. Donc j'ai commencé à L'Expansion, puis après j'ai basculé dans des groupes allemands qui correspondaient aussi un peu à ma nature. J'aime bien les choses carrées, j'aime bien l'organisation, mais parfois, dans ces groupes-là, ça manque un peu de créativité. Néanmoins, lorsque j'ai été chez Bertelsmann, avant d'aller chez Axel Springer, on était leader de la presse magazine en Europe, et c'est vrai qu'il y avait vraiment des... J'étais entouré de gens passionnants. Et j'ai malgré tout compris deux choses. Je suis resté 18 ans hein, dans cet univers. J'ai compris deux choses. La première, c'est que lorsqu'on est dans un secteur, le job le plus intéressant et le plus passionnant est le core business. Et donc, dans la presse, c'était d'être le rédacteur en chef d'un magazine. Moi, j'étais du côté des commerciaux.
Vous étiez directeur commercial ou chef de pub, c'est ça ?
Voilà, j'ai démarré chef de pub.
C'est-à-dire rentrer les sous dans la caisse. Quoi.
Voilà, exactement. J'étais
Le nerf de la guerre.
Voilà, j'ai démarré en chef de pub, j'ai terminé, je suis passé par la direction commerciale, puis après j'étais éditeur.
Vous étiez tendé par l'édito, parce que quand on côtoie justement une rédaction, et puis on est au cœur de l'actualité, on voit aussi passer beaucoup de gens, évidemment, des invités, ça vous tentait justement d'être là dans la rédaction, d'écrire vous aussi ou de participer au débat ?
Oui, je pense que dans cet univers, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est d'aller d'abord se poser les questions, de découvrir des secteurs, de se poser de bonnes questions et de faire des enquêtes, d'aller chercher l'information qui n'est pas celle qu'on a partout. Et d'ailleurs, je pense que peut-être plus en France qu'aux États-Unis, mais il y a quand même un problème de moyens qui fait que les enquêtes sont en général assez superficielles. Et très souvent, on s'aperçoit que, malheureusement, et vous êtes peut-être mieux placé que moi pour le savoir, les journalistes ne font que reproduire des choses qu'ils ont vues ou entendues.
Oh, pas ici, en tout cas.
Pas ici, évidemment, parce que dans l'immobilier, vous allez à la source de l'information. J'en suis à la preuve, mais... C'est vrai qu'il y a quand même un problème de moyens. Mmh. De toute façon, ce qui est clair, c'est que dans cet univers, c'est celui qui est au core business qui a le job le plus intéressant. Donc, j'ai évolué comme ça pendant 18 ans. Et puis, dans les années 2005 précisément, on a vu... Ça faisait déjà quelques années qu'on voyait Internet s'immiscer et s'imposer dans l'univers des médias. Les grands patrons de presse de l'époque n'avaient sans doute pas la bonne grille de lecture et on sentait que c'était poussif, c'était compliqué et on sentait bien que l'Internet était l'avenir et que la presse allait avoir du mal à l'accompagner, cet avenir. Et donc, de façon assez naturelle, j'ai commencé à réfléchir à ma deuxième partie de carrière, parce que j'avais 40 ans à peu près. Et j'ai commencé à regarder s'il n'y avait pas des possibilités de racheter une société, de m'investir dans un nouveau projet, un nouveau secteur, etc.
Mais il y avait cette fibre quand même entrepreneuriale, du coup, qui ça vous titillait un petit peu ?
Non.
Non, pas forcément.
En réalité, non. J'étais un bon salarié.
Il était ouvert aux opportunités.
J'étais ouvert à tout. Mais en même temps...
Est-ce que vous voyez, comme on dit, le monde changer, pour reprendre une formule connue d'un autre média, c'est-à-dire que là, vous faites le virage, effectivement, de l'Internet, des années 2000, on voit apparaître au niveau de l'advertising, donc votre core business à vous, qui êtes chargé de faire rentrer des sous dans la caisse, vous voyez quand même que ça commence à s'effriter, que les modèles vacillent, que la belle époque des années 80, fin des années 90 est derrière vous. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes chez Axel Springer, qui a fait son virage dans le digital, a même racheté des grands noms, Se Loger, etc., etc., a créé un empire du digital. Donc, il n'y avait pas des opportunités à ce moment-là de se dire, bah, tiens, il y a peut-être des choses à faire à l'intérieur d'un grand groupe comme ça ?
Alors, c'est une très bonne question de journaliste, évidemment. Ce qui s'est passé, c'est que Axel Springer a fait ce virage relativement récemment, donc une bonne dizaine d'années après ma décision de quitter le groupe. Et à fortiori, j'étais dans une filiale française du groupe allemand, donc c'est pas dans les filiales étrangères que se passent les choses. En général, ça commence toujours au siège, et donc en Allemagne. Donc j'étais dans une filiale de presse magazine toute simple, en France. À ce moment-là, je dirigeais des magazines de télé et de cuisine.
Alors, télémagazine et Vie pratique, hein, qui existent encore, je pense que c'est lu encore par quelques centaines de milliers de gens.
Oui, absolument. Et c'est à ce moment-là où j'ai cherché à ma nouvelle voie. Et en l'occurrence, j'ai rencontré Thibault par relation. Et alors lui, en revanche, Thibault, c'est l'entrepreneur.
Donc je précise, Thibault de Saint-Vincent, actuellement le président de Barnes.
Alors lui, c'est le pur et dur, c'est l'entrepreneur. Il n'a pas de limite. Sinon, la loyauté et les choses, je veux dire, propres, entre guillemets. Mmh. Mais sinon, il n'a pas de limite dans la créativité, dans l'envie d'entreprendre. Et lorsque je l'ai rencontré... Et ce qui s'était passé, c'est que son épouse, Heidi Barnes, avait créé 10 ans plus tôt l'activité de location saisonnière, de relocation même, c'est-à-dire l'accueil d'étrangers à Paris pour les installer lorsqu'ils viennent passer un temps relativement long. Donc elle préparait les appartements, les décorait, etc. Et donc c'est une activité qu'elle avait initiée. Lorsqu'ils sont partis s'installer aux États-Unis, à Miami, elle a continué cette activité avec Thibault, entre autres. Et ils avaient ouvert aussi une agence à Miami. Et cette activité s'appelait Barnes. C'était de la location saisonnière. De la location pour expat. Ça se passait bien. Et à un moment donné, Thibault, au bout de quelques années, au bout de 5, 6 ans ou 7 ans aux États-Unis, il a eu envie de revenir en France. Et grâce à cette expérience américaine, il a sans doute enrichi sa connaissance du métier dans la mesure où il avait déjà lancé 10 ans plus tôt une agence, un réseau immobilier en France, à Paris puis en France, qui s'appelait Connexion, qu'il avait revendu à ses associés. Mais son passage aux États-Unis lui a montré qu'il y avait d'autres choses que ce qui se passait en France. Il y a un secteur qui est beaucoup plus professionnalisé, qui est beaucoup mieux organisé. Le système américain permet à un client, acheteur, d'avoir, par l'intermédiaire d'une agence, l'exhaustivité de l'offre. C'est-à-dire que vous voulez acheter un appartement avec 3 chambres à Miami ou à New York ou n'importe où. Vous arrivez dans une agence que vous appréciez, vous rencontrez un consultant avec lequel vous accrochez et en qui vous faites confiance. Il va pouvoir vous présenter toute l'offre de façon exhaustive, existante dans le secteur qui vous intéresse.
Sur ces fameux fichiers MLS, hein, dont on parle beaucoup, Multiple Listing Service. En fait, on essaie de le faire via certaines initiatives, fichiers MEPI ou plus récemment e-listing, parce qu'on a eu Bernard Cadeau à votre place il y a quelques semaines qui nous en a parlé. Mais ce n'est pas évident et c'est vrai qu'il y a des résistances encore en France pour faire ce type d'initiative.
Oui, absolument, parce que la décision doit se prendre d'en haut. Ce n'est pas possible, à mon avis, que la décision se construisent par le bas, c'est-à-dire par des acteurs qui veulent se mettre ensemble, parce que pour que ça marche, il faut que les règles soient claires, qu'elles soient adoptées par tous et que tous partagent tout. Mmh.
C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, le trésor d'un agent immobilier, c'est bien sûr son fichier, c'est bien sûr ses exclusivités, voire ses clients qui lui font confiance. Il n'a surtout pas envie de partager ça. Est-ce que vous-même, chez Barnes, on rentre un petit peu dans le sujet, mais on va y revenir tout à l'heure, vous avez cette démarche de mutualiser ou d'avoir des partenariats ?
Alors effectivement, le sujet, c'est que si nous voulions mettre ça en place en France, comme je disais, il faut que ce soit mis décidé par le haut, que tout le monde partage tout immédiatement et non pas ne partage que les biens qu'il considère comme des biens difficiles à vendre, ou etc., comme c'est souvent le cas dans les groupes ou les GIE qui se créent, etc. Et il faudrait aussi que tous les consultants de toutes les agences aient un niveau professionnel comparable, qu'on puisse se faire confiance, que les informations qui soient transmises sur les dossiers le soient de façon aussi exhaustive, professionnelle, etc. Mmh. Le problème, c'est... Alors, autant aux États-Unis, vous avez un niveau professionnel élevé parce qu'on demande à l'ensemble des consultants de se reformer de façon très régulière, très récurrente, à un bon niveau. Et voilà. Et le métier de l'agent immobilier aux États-Unis est très valorisé. Il est très apprécié et très reconnu. En France, il est
moins reconnu.
Beaucoup moins reconnu, à juste titre, parce que vous avez des écarts incroyables entre les uns et les autres. Vous avez de très, très bons agents immobiliers, très professionnels, dignes de confiance. Et puis, vous en avez qui font ça pour de mauvaises raisons, sans doute, et qui ne sont pas formés et qui peuvent raconter n'importe quoi. Donc, tant que vous avez cette disparité, c'est une inégalité en termes de niveau professionnel. Il est compliqué de partager l'information, de partager les mandats, etc. Donc c'est pour ça que nous, chez Barnes, d'ailleurs c'est au cœur de notre concept, l'idée c'est de partager évidemment les projets de tous nos clients entre toutes nos agences. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on appelle chez nous l'inter-BU, c'est-à-dire qu'on transmet le projet d'une agence à l'autre. Lorsque vous avez un client, en général, quand vous êtes sur le haut de gamme, vous avez des clients qui ont les moyens d'avoir peut-être plusieurs projets. Si ce n'est pas eux, c'est leur père, leur cousin, leur enfant, etc. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner de façon globale. On y reviendra sur le concept, mais de façon géographique. Mm-hmm. C'est-à-dire, vous avez un client qui vient acheter un appartement dans le 16e à Paris. Il a peut-être un appartement à vendre à Neuilly. Boum, il y a tout de suite, évidemment, une mise en contact avec l'équipe de Neuilly. Mais ensuite... ce client a une maison à acheter ou à vendre au Pilat, Saint-Tropez, à Megève, à Méribel, ou à Lyon, ou à Londres, ou à New York, etc., dans les endroits où nous sommes présents. Et là, immédiatement, notre consultant qui est en contact avec lui à Paris va le mettre en contact avec l'autre agence et de façon très simple.
Il y a un maillage, mais qui reste à l'intérieur.
Interne. Parce qu'on a confiance, évidemment, puisqu'on se choisit les uns les autres.
Alors, on va reparler, bien sûr, de l'activité, mais on en était resté à ce parcours. Oui. Vous aviez une quarantaine d'années, hein, cette émission permet de mieux cerner la personnalité. Et il ne faut pas croire que vous étiez tout de suite propulsé comme ça, directeur. Ce que j'aime, c'est en préparant cette maison, vous m'avez raconté que j'ai tout fait dans l'immobilier. Vous nous parlez de cette période. Vous avez été négociant, vendeur. Racontez-nous comment ça a commencé.
En fait, quand j'ai démarré, donc c'était alors avec Thibault, on se tape dans la main en septembre, en octobre 2005, et on se tape dans la main, c'est-à-dire qu'on n'écrit rien. Je lui dis, écoute, je te fais confiance, tu me fais confiance, je me lance dans l'aventure avec toi. Et donc je vais demander à mon président à l'époque du groupe dans lequel je bossais de me licencier pour pouvoir bénéficier de la CEDIC. J'avais une femme, trois enfants, donc
c'était un saut dans le vide.
Saut dans le vide. Et honnêtement, j'avais un sac sur le dos. Je savais pas si le parachute allait s'ouvrir ou pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Mais j'ai eu tellement de chance de prendre cette décision.
Votre famille, ils vous ont suivi illico là comme ça?
Alors illico, parce qu'ils avaient confiance en moi. Je dis souvent que mon beau-père a dû avoir un petit vertige quand même quand je lui ai annoncé le truc. Et donc j'ai démarré comme ça. Et Thibault me dit, écoute, t'as qu'à te prendre une formation d'une semaine déjà pour avoir des rudiments. Donc, je me souviens très bien, c'était en décembre 2005. Je suis entouré d'une quinzaine de personnes qui, de la même façon, souhaitent se recycler. J'avoue qu'ils venaient un peu de tous horizons. Donc, j'ai été un peu étonné de voir avec qui j'étais. Il faisait nuit.
Je suis sûr que vous leur avez vendu des appartements.
Il faisait nuit à 6h du soir. La formation était plutôt le soir. Il faisait froid, c'est l'hiver. Je me souviens très, très bien, comme si c'était hier. C'était un sacré moment. En revanche, le prof que j'ai rencontré à ce moment-là, c'est un type qui était vachement bien, qui a fait Sciences Po, qui était rugbyman. Moi, j'aime bien le sport. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Et ce qui est amusant, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a démarré Barnes, c'est qu'il s'est agi pendant de nombreuses années, on est en train de faire encore évoluer les choses, mais de former les équipes. Ben, j'ai fait appel à lui et pendant les 10-15 ans qui ont suivi, il a été le formateur de chez Barnes, ce qui était assez sympa. Donc c'était une belle rencontre. Et puis j'ai démarré le 1er janvier 2006. Et là, on était 5-10 personnes. C'était dans l'agence de Neuilly, aujourd'hui, qui est le siège, puisque l'agence fait à peu près 400 mètres carrés. Donc, on a eu la place d'installer quelques services depuis. Et c'est vrai que j'ai démarré. J'étais à la place de Madame Pipi. Je dis souvent à l'accueil. J'étais là, tout le monde passait devant moi. On installait les bureaux, on recrutait de nouvelles personnes. J'accompagnais tous les consultants sur ce qu'on appelle les entrées de mandat, lorsque on allait rencontrer les propriétaires qui souhaitaient vendre et qui souhaitaient un avis de valeur pour ensuite le mettre en commercialisation. Donc j'accompagnais tous les consultants sur ces rendez-vous. Je rédigeais quasiment une promesse de vente sur trois, parce qu'avant la loi Allure, les choses étaient plus simples, il y avait moins d'administratifs. C'était toujours aussi sérieux, mais bon, c'était...
C'était le bon temps.
C'était le bon temps. Donc je les rédigeais toutes, je les présentais aux clients tous les vendredis après-midi. J'avais des présentations de promesses de vente. Je faisais toutes les négociations entre les acheteurs et les vendeurs pour tous les consultants. Donc,
apprentissage sur le terrain.
C'est vrai que pendant 3-4 ans, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et c'était je dis souvent, c'est un sport. C'était un vrai sport. On travaillait du matin à 8h jusqu'au soir, 8h30, 9h, et sans arrêter. Mais je ne voyais pas le temps passer. J'ai fait des rencontres géniales avec des clients vraiment top. Et puis voilà, on a construit quelque chose. Et aujourd'hui, on est content.
Et justement, pendant vos études, vous parlez de rencontres. Vous avez fait la rencontre d'un ami qui vous a suivi. Vous nous avez raconté ce beau cursus étudiant. On va voir qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il en garde. C'est Christophe Faircoq, l'un de vos amis que nous avons la chance de retrouver. Nous avons échangé avec lui. Voilà ce qu'il dit de vous. Christophe Faircoq, vous connaissez de longue date Richard Sipine. Vous avez fait vos études ensemble. Alors, c'est un bon ami pendant les études et même après ?
Oui, c'est un ami depuis 40 ans, donc un ami fidèle dans les bons et les mauvais moments. Donc, fidèle, effectivement, et avec lequel je fais beaucoup de choses très sympathiques, du sport, des voyages, et je me réjouis de le voir très souvent dans des occasions sociales.
Alors, sa réussite est fantastique au sein de Barnes. C'est une personne qui est restée simple. Comment il est comme personnalité, hein ? Quand on a réussi, parfois, on évolue beaucoup.
Oui, alors c'est vrai que Richard, il a tous les talents. On pouvait déjà le discerner quand on était étudiant, puisqu'il réussit tout avec une grande impression de facilité. Et c'est vrai qu'il est resté extrêmement simple, avec un sens de l'humour qu'il partage avec ses copains et un gros appétit pour les choses de la vie qu'il aime bien faire partager aussi. Voilà, je dirais que ça, c'est même sa qualité principale, c'est qu'il aime vraiment faire partager les choses. Et il n'est jamais aussi heureux que quand on se réjouit ensemble.
Quand on parle d'études et plus tard de professionnels, c'est une personne très sérieuse qui s'investit à fond ou on ne sent pas comme ça qu'il est ardu à la tâche ?
Si, je pense qu'il est très exigeant, mais il donne toujours un sentiment que c'est facile. Donc c'est toujours un peu surprenant pour les gens qui ne le connaissent pas, mais moi qui le connais bien, je sais qu'il est effectivement toujours super pro pour tout et pour autant très décontracté, très détendu.
Alors là, Richard Sipine vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
Écoutez, d'abord, je l'embrasse puisque je ne l'ai pas vu depuis quelques jours. C'est déjà beaucoup trop. Et puis, écoutez, je me réjouis qu'il soit interviewé pour sa réussite, qui est effectivement absolument superbe. Voilà, donc je le salue bien.
Voilà votre ami, un beau témoignage hein, de Christophe. Votre ami, vous, ami de 40 ans, dites donc.
Oui, je suis très ému. Alors Christophe, les compliments venant de lui, c'est encore plus fort parce que c'est un type incroyable. C'est un type qui a une force de caractère, qui a une volonté étonnante. Ça a été un grand sportif. Il a été sparring partner de l'équipe de France de judo. Il a dirigé des fonds d'investissement anglais. Il a créé le sien.
Il est président de Cobalt Capital, effectivement.
Absolument. C'est quelqu'un d'une droiture incroyable. Enfin bon, je suis très impressionné par ce copain. Et donc, je suis tout, très, très sensible, très touché.
Il dit, voilà, vous faites tout avec une impression de facilité. Alors souvent, c'est les gros bosseurs qui donnent ça. C'est vrai, comme vous dites, si vous avez travaillé 12 heures par jour sur un sujet, en général, on s'améliore. Mais finalement, vous aimez ça. Enfin, ça quand, pour prolonger la question, vous changez de carrière, on l'a vu, hein, à ce virage de la quarantaine. Vous mettez votre belle carrière de publicitaire, entre guillemets, dans des grands médias de côté pour vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale de l'immobilier. Ça, vous prenez le virus tout de suite, comment ça se passe? Parce qu'il faut quand même, pour travailler comme ça au tendeur, et il fallait être investi, il fallait quand même qu'il y ait une certaine passion.
Oui. En fait, pour faire la jointure entre ce que disait Christophe et la question... je ne peux pas faire quelque chose si ça ne me plaît pas et si ça ne m'amuse pas, entre guillemets. Mmh. C'est comme dans le sport. J'ai toujours pratiqué des sports dans lesquels je m'éclatais.
Alors lesquels?
Alors je suis vraiment pas endurant, mais donc j'ai fait beaucoup de foot et de tennis.
D'accord.
J'étais dans la
classé.
J'étais classé un petit peu, mais pas énormément. Mais j'ai pas fait beaucoup de tournois. Je suis pas dans la compète, mais je suis dans la compète amicale. Et donc, j'ai joué toute ma vie au tennis et jusqu'à ce que ma cheville soit complètement vrillée au foot. Donc, j'ai arrêté il y a 5 ans seulement. Je retrouvais mes copains au Stade français tous les dimanches. Donc, voilà, pour revenir à la question, il faut que ça me soit relativement facile pour que je m'épanouisse et que j'y passe du temps. Et donc, c'est vrai que je me suis vraiment éclaté dans ce job, beaucoup plus que finalement dans la presse. Ouais. Pourquoi ? Peut-être parce qu'on démarrait de pas grand-chose et que j'avais l'impression que c'était un peu aussi mon entreprise et que ce qui allait se passer, c'était vraiment à l'image de ce que nous sommes, Thibaut et moi, que le choix des hommes et des femmes qui allaient nous rejoindre, c'était le nôtre, que les valeurs qu'on allait déployer, bah, c'était les nôtres. Que si ça plaisait pas, bah, c'était notre faute. Et si ça plaisait, c'était grâce à nous. Et puis c'était, comme je le disais, un sport, un vrai sport. C'est-à-dire que c'est un combat, au bon sens du terme, avec des équipes qui nous accompagnent, face à des clients qui sont pas toujours faciles, évidemment, parce que quand un client voit arriver un agent immobilier, il voit souvent un idiot et un menteur, et a priori. Donc évidemment, de moins en moins quand on s'appelle Barnes, mais c'est un vrai combat et qu'en face de nous, on a des gens qu'il faut convaincre, qu'il faut séduire, qu'il faut ramener à la raison souvent, et qu'il faut amener jusqu'à un closing avec une négociation, avec un acheteur et un vendeur qui ne sont pas d'accord, qui peuvent s'agacer sur des détails. Hein. Moi, j'ai vu des choses incroyables. Mmh. J'ai vu pour des appartements d'une valeur de, je sais pas, de 2 millions d'euros, il va y avoir pour un problème de 500 ou 700 euros un blocage psychologique. Parce que quand vous avez deux hommes face à face, souvent à ce niveau-là, en plus, ça peut être des coqs qui s'énervent, et alors que les femmes souvent sont là qui veulent rien lâcher, et donc on est là pour assouplir, mmh. pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc c'est un combat, c'est un sport.
Brièvement, on a parlé de sport. J'ai vu un beau match hier soir avec l'OM. Est-ce que, puisque vous aimez le football, il y a une équipe que vous suivez en particulier? On essaie de compléter un petit peu ce portrait de vous.
Bah oui. J'ai honte de dire, j'adore le PSG parce que j'adore ses stars. Et c'est vrai que quand on a joué à un niveau même très bas au foot, on se rend compte à quel point le sport à haut niveau, c'est compliqué. Quand on voit des gens qui n'y connaissent rien, qui critiquent en disant mais va plus vite, passe plus vite, marque, machin, etc., on se rend pas compte à quel point c'est difficile. Ce qu'on voit, c'est magnifique. De le tennis, c'est pareil.
Oui, c'est vrai. Alors, on va parler dans quelques instants justement de votre association, de cette formidable réussite de Barnes, hein, avec votre partenaire Thibaut de Saint-Vincent. On retrouve notre invité juste après son deuxième choix musical. On écoute tout de suite.
The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth.
Eric Clapton, bien sûr, Change the World, le choix de notre invité du jour, Richard Tsipine. On reste dans le blues, hein, là, dans les titres américains, soul. Vous l'avez joué, ça aussi ?
Je l'ai chanté, ouais, mais c'est tellement beau. C'est un génie, la guitare et la mélodie, hein, c'est extraordinaire, j'adore.
Ouais, Eric Clapton, voilà, ça fait du bien. Tiens, on revient sur votre parcours, Barnes, hein, formidable réussite dans l'immobilier de prestige, avec votre président et votre associé Thibaut de Saint-Vincent. Je voulais que vous nous racontiez, parce qu'on sait, c'est très compliqué de créer une société, de se lancer tout seul, mais c'est également compliqué de travailler en bonne intelligence et en association. Comment ça s'est passé ? Vous me disiez, bon, le parcours, vous avez commencé à fond les manettes, hein, travailler 12 heures par jour, monter le réseau. Comment vous avez décidé justement de cette association ?
Eh ben, j'ai eu beaucoup de chance. Comme souvent dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai eu beaucoup de naïveté aussi, ce qui me permet d'avoir de la chance. Lorsqu'on s'est croisés, je l'ai cru tout de suite. Et je pense que si j'étais tombé sur un autre dans ce secteur, j'aurais eu sans doute pas la même chance. C'est vraiment quelqu'un de bien. Si ça s'est bien passé, c'est parce qu'il y a... D'abord, je pense que tous les deux, on est des gens carrés, honnêtes, sincères, transparents. On se dit les choses. D'ailleurs, on s'est engueulé assez vite, une fois ou deux. Et après, on ne s'est plus jamais engueulé parce qu'on s'est dit tout de suite...
Vous avez dit les choses.
Ah oui, tout de suite. Et y a aussi ce respect de l'autre, une loyauté. On tient nos engagements. Enfin, voilà. Alors après, on est très complémentaires, heureusement d'ailleurs. Alors, comme je le disais, lui, c'est l'entrepreneur. C'est celui qui n'a pas de limite. D'ailleurs, l'une des premières phrases qu'il m'a dites lorsqu'on s'est croisés il y a 15 ans, il m'a dit « Sky is the limit ». Donc tout est possible. Alors que quand on est relativement normal, comme moi, on se met des limites idiotes sur plein de choses. Donc lui, c'est un peu la locomotive, c'est celui qui va oser. Et moi, je suis le wagon juste derrière qui tient les wagons. Parce que moi, je suis très, très proche de la relation humaine, des gens, des hommes et des femmes qui travaillent chez Barnes. C'est comme ça un petit peu qu'on se complète et qu'on s'organise. Moi, je pense que l'essence de ce métier et la clé du succès, ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent, parce que c'est un métier extrêmement psychologique, très basé sur l'humain et sur la psychologie des gens. Souvent, les candidats que je reçois me disent, quand ils veulent me séduire, me disent « j'ai toujours aimé la pierre, j'adore les appartements, j'ai eu d'ailleurs des expériences, j'ai acheté des appartements, etc. Ouais. » Bon, je dis « très bien ». Et celui qui me dit « mais ce que j'aime vraiment avant tout, c'est la relation humaine, c'est ça qui m'intéresse ». Et là, je me dis « bon, là, j'ai un bon candidat en face de moi, parce que c'est ça la clé ». Et donc, si on s'entoure de gens qui partagent les mêmes valeurs, qui sont des bosseurs, qui sont des gens d'un très bon niveau intellectuel, qui ont évidemment fait, pour certains, des études très supérieures, qui aiment les autres, qui aiment l'empathie, la sympathie, qui fait tout ce qui va permettre d'accompagner intelligemment un client, qui est dur lui-même, parce que le client, il est face... il n'y a pas de cadre. Un client, il peut tout se permettre avec un agent immobilier. Il peut aussi partir du principe qu'il va le critiquer parce qu'il pense que si ça ne se passe pas bien, c'est à cause de l'agent immobilier, etc. Donc, il faut être capable de comprendre ça, de l'absorber, de le digérer, et puis ensuite d'accompagner intelligemment, voilà, efficacement un client. Donc, c'est la psychologie. Donc, les hommes et les femmes, c'est l'essentiel.
Vous parlez de locomotive, de wagon. Moi, j'ai l'impression que Barnes, c'est plutôt un TGV quand on voit cette ascension, cet essor fulgurant. Hein, 500 personnes en France à peu près. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'immobilier de luxe? Comment se porte-t-il à la fois à Paris, en banlieue? Vous avez sorti quelques analyses récemment.
Absolument. Il s'est passé tellement de choses depuis deux ans, dans tous les secteurs d'ailleurs. Alors, dans l'immobilier, c'est très, très particulier. D'abord, nous sommes l'un des secteurs qui nous en sommes très, très bien sortis, et je dirais presque grâce à cette crise sanitaire. Pour refaire un petit historique très simple depuis deux ans, fin 2019, les prix sont au plus haut à Paris. L'offre est faible, la demande est forte. L'offre, c'est le nombre de biens qui sont présentés sur le marché. La demande, c'est les clients qui cherchent à acheter. Comme vous avez une demande forte et une offre faible, les prix sont très élevés. Et donc, il y a un phénomène d'ailleurs qui est assez amusant, qui s'appelle les ventes flash. À ce moment-là, il y a très peu d'écart entre les prix. Entre l'appartement du dernier étage et l'appartement du premier étage, vous avez des écarts très faibles, parce que comme il n'y a pas grand-chose à acheter, tout le monde se précipite sur ce qui est à vendre. Et on fait des ventes en 24 heures, 48 heures. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de demandes que certains appartements qui sont corrects, on est obligé d'organiser un ordre de passage des clients et on est quasiment tiré au sort les consultants qui passeront avec leurs clients pour vendre. Et on va vendre à la première ou à la deuxième visite. Ça, c'est ce qui était en fin 2019. Mars 2020, boum, tout s'arrête. Tout le monde s'inquiète. Drame. Et là, honnêtement, on se passe tous des coups de fil chez les uns et chez les autres, en visio, etc. Waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, il y a eu à ce moment-là, au-delà de la parenthèse où tout s'est arrêté, beaucoup de clients vendeurs qui sont mis à vendre en disant « la crise est terrible, les prix vont baisser, vendons maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer ». Donc, il y a eu une première vague de mise en vente. L'année 2020 passant, deuxième confinement arrivant, on commence à mieux voir ce qui se passe, on est rassuré. Il y a eu un rattrapage à la fin du premier semestre 2020. Néanmoins...
Les prix ont baissé entre-temps, vous disiez, là, les gens se mettent à vendre. Alors, on était au-dessus, donc là, ça, on revient à un prix correct. Il y a de nouveau une différence entre le rez-de-chaussée et le sixième étage avec la vue sur la Tour Eiffel.
Alors aujourd'hui, oui, mais je termine juste la présentation, parce que c'est intéressant de voir ce qui s'est passé. Il y a eu surtout, après, fin 2020, un changement de comportement et de projet. Il y a eu beaucoup, beaucoup de projets qui se sont créés parce que, avec ce confinement, les gens ont voulu déménager pour avoir plus grand pour travailler, pour avoir plus clair pour mieux voir quand ils travaillent, pour quitter les villes, pour aller dans les, soit à la campagne, soit dans les stations balnéaires ou autres où ils avaient potentiellement une résidence secondaire. Il y a eu l'émergence de ce que nous avons appelé dans, chez Barnes, grâce à une étude qu'on avait faite il y a quelques mois, la résidence semi-principale. Vous avez beaucoup de gens qui ont quitté leur résidence principale pour aller s'installer dans une résidence semi-principale, qui était leur résidence secondaire, mais dans laquelle ils vont vivre longtemps et peut-être définitivement, entre guillemets, pour vivre, pour travailler, etc., tout en gardant éventuellement un pied à terre. Donc, il y a eu beaucoup de projets qui sont créés. Donc, une demande supplémentaire qui est arrivée, en plus de celle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la demande a progressé fortement. Vous vous rappelez, fin 2019, très faible demande. Donc là, la demande est devenue très forte. Donc, forte demande, une offre... Offre, très forte. Et la demande est toujours, toujours aussi forte, parce que les gens souhaitent déménager, comme je le disais, de nouveaux projets. Donc, vous avez une offre et une demande qui se sont rééquilibrées. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait une modification sur l'évolution des prix. Je reviens à votre question à l'instant. L'écart type entre les prix des beaux appartes qui se trouvent aux étages élevés plein soleil et les appartements à défaut qui se trouvent plutôt bas étage, rez-de-chaussée, travaux, rue sombre, etc., cet écart type-là va se remettre à croître fortement et ça commence à se voir. Autrement dit, le prix des appartements de qualité, comme je disais, dernier étage, etc., reste très élevé. On continue à vendre des prix vraiment incroyablement élevés par rapport aux 5 dernières années. En revanche, les appartements à défaut vont baisser de 10 à 20%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un appartement qui devait peut-être se vendre à 12 000 euros le mètre carré, il y a un an et demi, il se vendra à 10 000 euros le mètre carré ou à 10 500. Donc une baisse forte. Donc cet écart type progresse fortement. Voilà. Ça, c'est clairement ce qui se passe aujourd'hui.
Quelles sont les régions les plus prisées? La campagne, donc, est revenue en grâce. Il y a quelques années, c'était plutôt mal vu, un peu décrié. Tout le monde veut aller se mettre au vert, maintenant?
Oui, alors ça, on peut le dire. On peut dire qu'il y a beaucoup de citadins qui ont quitté les grandes villes pour aller s'installer dans les régions, alors à la campagne. On a vu des maisons de campagne qui commençaient à redevenir très à la mode, des endroits pas très loin, je dirais, peut-être à une heure maximum des grandes villes. En l'occurrence, à une heure de Paris, vous avez des villages qui ont pris de la valeur, beaucoup de valeur. Et puis, vous avez aussi beaucoup de demandes auprès, dans nos stations balnéaires, sur toute la côte atlantique. Je dirais même Deauville, qui n'est pas sur la côte atlantique à proprement dit. Mais c'est, notre agence de Deauville a plus que triplé son activité en un an et demi. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. C'est redevenu le 21e arrondissement de Paris. Ouais. Et puis après, vous avez toutes les régions comme la Baule, vous avez... le Pilat, avec Arcachon, Cap-Ferret, vous avez aussi Biarritz, Osgore, Saint-Jean-de-Luz. Toutes ces stations ont explosé. Donc le nombre de mandats, donc l'offre a décru de deux tiers à peu près. On est passé d'une centaine de mandats dans certaines à une trentaine. Donc ça a vraiment décru. On a pratiquement tout vendu et les prix ont progressé de 10 à 20%.
Alors je ne sais pas Fabrice si ça vous intéresse de déménager. J'ai vu sur le site de Barnes une chambre de 48 mètres carrés vue sur le Sacré-Cœur. Une vue à couper le souffle. Peut-être vous regarderez d'autres régions, vous nous direz ça. Et si ça vous intéresse, vous allez peut-être rentrer dans l'agence de Barnes du 9e arrondissement. Et vous allez peut-être croiser Marie Brochet. Elle dirige l'agence à cheval sur Paris 18e et le 9e. Et comme elle travaille régulièrement avec Richard Tipin, on lui a demandé de nous parler de lui. Bonjour, Madame Marie Brochet, vous êtes la directrice de Barnes dans le 18e arrondissement à Paris, rue des Martyrs. Bonjour.
Bonjour, Madame.
Alors, vous travaillez avec Richard Tivini depuis des années. Comment ça se passe de travailler avec un tel directeur?
Écoutez, c'est plutôt facile de travailler avec un directeur comme Richard. Richard, c'est quelqu'un de galvanisant. C'est vraiment le leader qui va nous amener avec lui, qui va nous faire voyager dans ses idées et qui va nous emporter. D'abord, il a beaucoup d'intuition. Il a une très, très belle intuition du marché immobilier. Et donc, bien sûr qu'on a envie de le suivre et on a envie de nous dépasser pour... pour lui faire plaisir et pour qu'il puisse être fiers de nous aussi.
Alors l'immobilier, c'est un secteur, une profession de contact, on voit beaucoup de gens. Est-ce que c'est le type de manager qui ne parle qu'à la crème de l'élite ou il s'adapte au public avec qui il parle? Comment vous le voyez, vous?
Oui, évidemment, non, il ne parle pas qu'à la crème de l'élite, même si quelque part, on est un peu tous la crème de l'élite chez Barnes. Mais non, bien sûr que non, Richard, c'est le manager le plus moderne que je connaisse. Je connais personne d'autre monde qui sait comme lui fédérer, faire adhérer à tes idées. Et puis, il est reconnaissant, il valorise les gens, il nous félicite. C'est un manager en fait super sympa, très sympa et toujours avec le sourire quand il nous expose ses idées, quand il nous félicite, on est tous séduits, on ne peut être que séduits par Richard.
Dans les sociétés, il y a des leaders, il y a des managers, des gestionnaires. D'après vous, il est perçu plutôt comment avec ceux qui travaillent comme vous?
Richard, c'est un leader qui n'en a pas l'air. C'est-à-dire que c'est le parfait leader, en fait. C'est celui qui va nous emporter avec lui, qui va nous faire adhérer à ses idées. Moi, je connais personne qui sait résoudre les conflits, apaiser les tensions, sans en avoir l'air, comme le fait Richard. C'est incroyable. C'est-à-dire que mine de rien, comme ça, clac, 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 il va vous résoudre le truc qui n'est pas résolu depuis... qui traîne ou qui s'envenime. Il est incroyable pour ça.
Un leader qui n'en a pas l'air. Voilà, quel bel éloge de la part de votre collaboratrice Marie Brochet, donc agence. Alors, 19e, c'est à la frontière, là.
En fait, d'abord, je suis encore une fois très sensible à ce qu'elle a dit. Marie est une directrice exceptionnelle, c'est l'une de nos meilleures. Elle est avocate de formation.
Je précise qu'elle n'était pas prévenue de l'appel, donc elle ne récite pas sa leçon. Ça peut être très positif, c'est spontané.
C'est encore plus fort. Et donc, c'est quelqu'un de très intelligente, de très vive, qui a des résultats exceptionnels. Et son agence est placée au coin de la rue des Abbesses et de la rue des Martyrs. D'accord. Et le concept chez Barnes, ce sont des... Et ça évolue d'ailleurs, le concept, vers des concept stores d'ailleurs. Nos agences sont toujours très grandes. Toujours, on essaie de les placer évidemment le mieux possible par rapport à un secteur. Nous sommes très sectorisés, très segmentés. Et cette agence traite les territoires du 9e, 10e, 18e et 19e. Voilà. Donc elle est depuis Montmartre, sur le nord-est de Paris. Et on a deux équipes commerciales qui s'occupent de ces secteurs.
L'immobilier est-il une valeur refuge? On a parlé des changements induits par la crise du Covid. Il y a tout simplement le télétravail. Mais est-ce qu'en termes de statut de valeur refuge, vous y croyez? Vous le sentez?
Oui, c'est évidemment une valeur refuge. À partir du moment où vous avez toujours une demande forte par rapport à une offre qui est proposée. Et alors l'immobilier, c'est pas l'immobilier dans le monde entier, c'est l'immobilier dans certains secteurs. Paris, c'est une valeur refuge, c'est clairement une valeur refuge. Il y a d'autres endroits en France qui sont des valeurs refuges. Dès lors que vous avez une demande forte et une offre contenue, c'est une valeur refuge.
Il y a une tendance en ce moment, vous me parliez Arcachon, Saint-Tropez, les stations dans les Alpes, etc. Est-ce qu'il y a une tendance qui se fait, pour l'année 2021, parce que vous avez très bien dit, envie de plus de verdure, plus d'espace, plus de luminosité pour ceux qui ont un petit peu plus les moyens que nous autres. Quelle est la tendance en ce moment?
Alors moi, je ne parle pas de tendance parce que la tendance par nature, elle évolue, elle change. Donc c'est toujours compliqué de dire la tendance, c'est tel endroit parce que dans 6 mois, ou dans 1 an ou dans 2 ans, ce sera un autre endroit. Mais il y a une tendance qui est la relocalisation. On le voit bien avec le phénomène plus large lié à l'écologie, entre guillemets. Vous avez beaucoup plus de relocalisation. Vous avez les expatriés, par exemple, c'est un exemple, qui reviennent à leurs sources aujourd'hui à cause du Covid ou de la Covid, aussi à cause du Brexit. Vous avez beaucoup d'expats français qui reviennent de Londres, mais qui reviennent aussi des États-Unis ou d'Asie à leurs sources, un peu comme le saumon, comme on parle souvent de comparaison. Vous avez donc il y en a qui reviennent dans le 16e arrondissement parce qu'ils ont vécu leur jeunesse là. Il y en a qui reviennent à Versailles. Aujourd'hui, on a par exemple Versailles, Saint-Germain-en-Laye sont des endroits qui marchent très très fort autour de Paris parce que vous avez d'abord l'attrait des maisons avec jardin et les Parisiens sont très friands en ce moment de cela. Et vous avez ces expats qui reviennent à leur source. Donc La tendance, c'est la relocalisation et beaucoup aussi les jeunes pré-retraités ou les jeunes seniors prennent peut-être leur retraite un peu plus tôt, surtout pour les professions libérales, et vont s'installer dans les endroits où ils ont leur résidence secondaire.
D'accord.
En gardant un pied-à-terre à Paris pour retourner régulièrement voir leur famille, etc. Donc voilà, ça c'est la tendance en ce moment.
C'est un groupe international. Est-ce que, d'une part, la clientèle internationale est-elle revenue ? Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler de ce réseau ? Vous êtes présent dans quel pays ?
Alors, on est présent dans une quinzaine de pays. On continue à se développer. Ce qui est clair, c'est qu'on est présent, on est leader à Paris, on est leader en France, on est leader en Suisse. Ça sont les endroits qui sont les premiers endroits qu'on a investis il y a donc une quinzaine d'années. Et progressivement, grâce à ces 15 pays, on peut accompagner, ce qui est toujours le concept de Barnes, cet accompagnement global sur le plan géographique, mais aussi au niveau des activités dont on parlera après peut-être. On peut accompagner nos clients de façon très simple dans ces 15 pays. Alors on est aux États-Unis, à New York, à Miami, on est à Londres, on est en Italie à Porto Cervo, on est en Espagne à Barcelone et à Madrid, on est au Portugal.
Vous voyagez beaucoup du coup vous-même quand, dans ces destinations un peu de rêve ?
Alors moi non. Moi je m'occupe surtout de Paris et de la France. Thibault, lui, c'est un électron libre, il voyage tout le temps.
Ouais.
Hier il était à Paris, aujourd'hui il est à Miami.
Et oui, on peut de nouveau partir aux États-Unis. Voilà.
On peut absolument partir aux États-Unis. Il va souvent à Saint-Barthélemy parce qu'on a une agence là-bas. Il va à Madrid puisque son point de chute progressivement est plutôt Madrid maintenant. Donc lui voyage beaucoup. Il s'occupe du développement international. Moi, je m'occupe.
Pas de jalousie, non, vous dites pas.
Aucune jalousie. Moi, je suis pas trop
content d'être sur le terrain, voilà, localement.
Ouais, alors tous les métiers n'ont pas le même rayonnement. À l'immobilier de prestige, dès qu'on en parle, ça fait rêver. Le notariat, une image un petit peu plus dure, hein, ça fait moins rêver. Et pourtant, il y a de belles histoires d'amitié, de belles relations entre notaires et professionnels de l'immobilier, comme entre Richard Sipine et Emmanuel Jubeau, notaire à Neuilly. On l'écoute. Bonjour Emmanuel Jubeau, vous êtes notaire à Neuilly et vous travaillez d'ailleurs avec Monsieur Richard Sipine. Alors qu'est-ce que vous faites exactement à Neuilly ?
Oui, bonjour. Alors à Neuilly, avec mon équipe, nous travaillons essentiellement sur des sujets immobiliers, que ce soit pour des entreprises ou pour une clientèle de particuliers. Et justement, dans le cadre de cette activité avec les particuliers, je suis en contact avec Richard Sipine, qui est un de mes interlocuteurs avec qui j'ai plaisir à travailler.
Pourquoi vous avez du plaisir à maîtriser ces dossiers, bien sûr, mais c'est agréable. Vous êtes pourtant sur des sujets sérieux, non ? Comment ça se passe ?
Alors, on est effectivement sur des sujets sérieux. C'est des sujets qui sont importants dans la vie des particuliers, une opération immobilière, que ce soit un achat ou une vente. Ce que j'apprécie particulièrement dans la gestion de ces dossiers, c'est que Richard Sipine a une belle qualité d'écoute, je pense, que ce soit évidemment avec les clients, à l'égard des sujets qui sont importants pour eux. Il connaît bien ses dossiers. Je pense qu'il sait intervenir auprès de ses équipes quand il y a besoin pour faire avancer un dossier, pour parfois il faut un petit peu de diplomatie aussi pour que les gens se décident à fonctionner et avec un petit soupçon de pugnacité quand c'est nécessaire, et tout ça amène à des dossiers en général bien conduits et bien organisés.
Alors c'est vrai que ce sont des dossiers, on se parle beaucoup, c'est une relation humaine. Est-ce que vous faites partie, Richard Sipine, des gens qui ils font la négociation, la transaction, et puis on passe à autre chose, ou bien c'est un véritable échange ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est un échange au départ avec effectivement l'agence immobilière, avec Richard Sipine. Le plus souvent, la clientèle de Richard est une clientèle qui est sensibilisée au sujet juridique, et donc on a un échange qui devient parfois technique quand il y a besoin. Pour le suivi et l'aboutissement des dossiers. Parfois, il y a des petites difficultés et on réussit ensemble à bien les surmonter.
Le groupe Barnes s'est développé au niveau international. En France, ça fait partie des acteurs qui savent valoriser le patrimoine comme à l'international. Barnes, c'est votre point de vue ?
Ah oui, manifestement. Ils ont des très beaux dossiers, des biens de qualité. Ça se traduit aussi, je pense, par une clientèle fidèle de mon point de vue, et tout ça est lié effectivement à cet environnement de bons professionnels qu'est Barnes.
Eh bien, merci Emmanuel Jubeau. Jean-Paul, vous êtes notaire à Neuilly et vous travaillez avec Richard Tipin depuis une bonne dizaine d'années. Merci pour cet entretien.
Merci.
Voilà donc votre collègue, quelque part, hein, c'est notaire, c'est vrai qu'on en a besoin. Vous disiez tout à l'heure, on était sensible à ça, l'humain, c'est important, l'immobilier, ça revient extrêmement souvent, effectivement, des métiers de l'humain, et avec aussi des clients hein, exigeants, forcément, parce que qui dit bien de prestige, dit aussi, évidemment, une commission élevée. Souvent, vous devez débrouiller aussi des situations familiales, vous le disiez tout à l'heure aussi, des combats de coq parfois. Des fois, c'est extrêmement compliqué. Il faut avoir de la psychologie dans ce métier.
Oui, absolument. C'est-à-dire que les clients ne se rendent pas compte à quel point l'opération immobilière est impliquante et parfois traumatisante, entre guillemets. Parce que d'abord, ça fait 50 000 fois qu'on le répète, mais l'acquisition d'un bien se fait à un moment important de sa vie, que ce soit un moment positif ou négatif. Mmh. Donc, c'est un moment psychologique qui est très fort, avec des failles. Et souvent, les clients traitent ce sujet de façon un peu trop simple.
C'est un engagement, c'est un investissement.
C'est un investissement à un moment important de sa vie. Et on traite ça un peu...
C'est un patrimoine qu'on fait ou qu'on défait.
C'est ça.
Et avec des maisons familiales parfois, des demeures historiques peut-être, avec un affect incroyable.
Incroyable, et c'est l'objet matériel le plus cher, entre guillemets, qu'on ait acquis et qu'on a peut-être mis 10 ans, 15 ans ou 20 ans à acquérir dans une famille, qu'on s'est transmis, etc. Et on traite ça de façon idiote, parfois. C'est-à-dire qu'en fait, on a des clients qui nous disent, bon ben voilà, donc on va les voir, on leur explique qu'on est efficace, qu'on investit énormément dans nos équipes commerciales, dans la communication depuis des années, qu'on a un fichier très important qui est partagé par toutes nos équipes. Donc quand vous avez 200 consultants parisiens qui enrichissent au quotidien un fichier commercial d'acquéreurs et qui lui-même est enrichi d'agences régionales et voire internationales, de clients potentiels, etc., vous avez un fichier incroyable. Bon, vous investissez, vous avez donc une valeur. Et quand ce client dit « bon, très bien, je vais voir », et la première question c'est « quels sont vos honoraires ?» C'est la seule chose qui l'intéresse pratiquement, alors que nous, grâce à ce fichier, on peut peut-être lui apporter la valeur la plus importante de son bien. Et qui nous dit, par exemple aussi, écoutez, moi j'ai un copain, il a un appartement à vendre, n'importe quoi, dans le 16e. Il dit, moi j'ai un copain qui a une petite agence à Charenton, mais comme c'est un copain, je vais lui donner mon appartement à vendre. On se dit, mais son appartement, il vaut peut-être, je ne sais pas, 1,5 million. Il va confier ça à quelqu'un qui va le galvauder sans le vouloir. Si c'est un ami, il va faire attention quand même. Mais bon, il ne se rend pas compte que pour vendre un appartement à 1,5 million ou à 1,6 million ou à 2 millions ou à 2,5 millions, il faut se donner les moyens, être hyper sérieux, hyper professionnel, parce que les 50 ou 100 000 euros de plus qu'il va obtenir en étant pro, c'est de l'argent. Mmh. Mais non, les gens traitent ça, et c'est pour ça que je dis c'est très psychologique, traitent ça parfois un peu n'importe comment. Donc c'est là où il faut qu'on soit très, très clair.
Alors on parle de résidentiel, mais Barnes, c'est aussi Barnes Art Advisory, le conseil en acquisition d'œuvres d'art. Et puis vous avez également développé les propriétés viticoles Barnes Vineyard Investment, et quoi encore, Barnes Yacht. Alors finalement, il y a une grande diversification là.
Absolument. En fait, vous touchez du doigt la stratégie de Barnes. En l'occurrence, on a démarré comme une agence immobilière. On est devenu une société immobilière haut de gamme, on va dire, internationale. Et l'idée, c'est de faire de Barnes une marque de l'art de vivre à la française. Parce qu'en réalité, quand vous touchez la clientèle à fort pouvoir d'achat, et celle qui est encore plus aisée, qu'on appelle les ultra high net worth individuals, c'est-à-dire ceux qui ont 30 millions de dollars d'épargne, entre guillemets. Donc ça, c'est en haut de la pyramide des clients qu'on touche. À un moment donné, ils ont des passions. Ils ont des passions qui sont proches de leur univers intime de l'immobilier. C'est le vin, c'est l'avion, c'est le bateau, c'est l'art, etc. etc. C'est les voitures de collection, etc. Mmh. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, Barnes puisse proposer cette très large palette de services à nos clients, Lorsqu'ils achètent une maison à Saint-Tropez, ils ont sans doute envie d'acheter un bateau, de louer un bateau. S'ils ont beaucoup d'argent pour aller de leur maison de Saint-Tropez aux Hamptons ou à je ne sais où, ils ont envie de louer un avion, etc. Et donc, et puis quand ils veulent décorer, ils veulent des conseils en art. Heidi Barnes, d'ailleurs, est très impliquée. C'est elle qui directement dirige cette activité de Barnes Art Advisory, qui correspond aussi à une envie, une passion de certains de nos clients. Donc voilà, c'est ça la stratégie à venir de Barnes.
Et je ne sais pas si vous savez, Fabrice, il y a un département propriété et château qui met davantage de temps à vendre ses biens. Et vous ne voulez pas restaurer un moulin du 11e siècle, Fabrice, ce week-end, pour 522 000 euros près de Caen, ça vous dit?
Ça me tente plus que le 48 mètres carrés.
Mais oui, il faut de l'espace d'une famille. Oui, les propriétés et châteaux, ça s'arrache en ce moment, Richard?
Oui. Ah bah, ça a été compliqué assez longtemps. Et là, depuis le Covid, effectivement, c'est vraiment un secteur qui marche très, très fort. Et dans ce secteur, on a les chasses qui alors ça fait longtemps maintenant que ça marche. On a le patron, un de nos associés qui s'appelle Bertrand Couturier, qui vit en grande partie en Sologne et qui nous vend entre guillemets une dizaine de chasses par an. Et on est très très impliqué sur ce secteur.
Mais comment vous allez faire? Vous allez externaliser ou Barnes va intégrer tous ces nouveaux métiers autour du luxe, de l'art de vivre à la française finalement?
Alors a priori l'idée c'est plutôt de trouver un partenaire expert qui a fait ses preuves depuis 10 ans, qui partage totalement nos valeurs. Et dès lors qu'on l'a trouvé, l'idée, c'est qu'il prenne la licence Barnes. À partir du moment où il a l'expertise, on n'a pas besoin de l'intégrer totalement.
On arrive bientôt au terme de cette édition. On voulait avoir aussi votre coup de cœur en termes de, voilà, peut-être de vacances, de lieux de vie. Alors pareil, on a compris, pour être au plus près de ses équipes et du terrain, contrairement à votre président, quel est-vous votre coup de cœur pour les vacances?
Mon coup de cœur, c'est le Pila. Le Pila, j'ai mis 10 ans à trouver ma résidence secondaire, entre guillemets. Et c'est à la fois simple, sauvage, vous pouvez pratiquer quasiment tous les sports. Il ne fait pas toujours beau, tant mieux. Il ne fait pas trop chaud, tant mieux. Vous avez des amis que vous voyez quand vous avez envie de les voir. Et vous avez, voilà, c'est un endroit très, très beau et très, très sympa.
Moi, j'ai vu qu'il y a une villa à 6,5 millions d'euros à Saint-Tropez, magnifique villa contemporaine. Ça me donne des idées, je vais en parler à mon mari dès ce soir. Ouais. Oh non, peut-être que je vais l'énerver là.
À votre patron aussi peut-être, pour l'augmentation. Merci en tout cas Richard Tipin, c'était un plaisir de vous avoir dans ce Mac de Limo. Professionnel chevronné, leader sans en avoir l'heure, on a entendu, ami fidèle, amateur de foot, mais à l'intérieur, dans le COP, de blues également, chanteur d'ailleurs à 16h. Alors il ne nous a pas poussé la chansonnette, on va terminer d'ailleurs avec votre troisième choix musical, on reste dans le blues, hein. Marvin Gaye.
Vous pouvez peut-être chanter avec lui?
Non mais je vous remercie en tous les cas, c'était un moment très sympa.
Merci. On continue dès la semaine prochaine pour un prochain Mac de Limo. Merci Fabienne. Et puis merci à la technique.
Pardon. À Baptiste Couchard et David.
Et David, à très bientôt.
Merci.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and here today. Oh, pick it light. Picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? What's going on?
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.